problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Rati, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. François Pinet.
Avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel, on est ensemble jusqu'à minuit pour l'after, comme tous les soirs quasiment de ces vacances, puisque demain il n'y aura pas d'after, exceptionnellement, c'est réveillon avec Cazard, si vous voulez réveillonner avec Julien Cazard et Adrien Aigouin.
Eh ben.
C'est très drôle, c'est le meilleur de Cazard, le meilleur d'Adrien Aigouin du journal moyen, c'est à partir de 21h demain, mais sinon l'after reviendra évidemment à partir de mercredi, à partir de 21h, dans un instant, à 22h30 exactement, on sera avec nos drôles de dames, on parlera du fiasco de l'AC Milan avec Simonet, du Real Madrid qui a été muet hier avec Fred Hermel, ou encore du retour de Paul Pogba avec Julien Laurence. Et puis Paulo Breitner veut absolument nous parler de Leipzig et de Mönchengladbach, parce que la Bundesliga est sans dessus dessous, vous le savez, les deux leaders devancent le Bayern Munich. Mais tout de suite, on va parler de l'Olympique de Marseille. Supporters de l'OM, on vous attend évidemment nombreux pour parler du mercato de l'OM. On va s'intéresser d'abord à un cas précis, celui d'Isaac Liadji, et c'est l'objet de ton avis tranché, Jonathan.
Valère Germain, il est encore plus nul que Mitroglou. Juste parce qu'il est gentil, qu'il zozote, que vous l'aimez bien, arrêtez, il est nul.
Isaac Liadji, 17 ans, deux petites apparitions cette saison contre Dijon et Amiens. Depuis un mois, plus rien, parce qu'il n'est plus appelé par Villas-Boas. La raison, c'est qu'il n'a toujours pas signé de contrat pro avec l'OM. Il est pourtant présenté comme un grand talent du club, ce qui a attiré les recruteurs d'un petit peu partout. Est-ce que l'OM doit s'aligner sur des offres financières plus intéressantes pour le joueur, alors que le club est dans une volonté actuellement de baisser la masse salariale? Jonathan, tu as un avis très précis là-dessus.
À mon avis, c'est que c'est un message pour le petit Isaac. Je vais lui dire, Liadji, sois raisonnable. Alors le feuilleton, il dure depuis de nombreux mois, avec des rebondissements aussi pathétiques que ceux d'une sitcom américaine. Est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il ne va pas signer? En tout cas, on ne sait plus donner de la tête avec le cas de Liadji. Un jour, on nous dit qu'il y a un accord avec le club et le joueur et que ça va être officialisé dans les 48 heures. Un autre jour, on nous dit que ça sent mauvais et que le joueur est plus proche d'un départ. Bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Alors moi, franchement, je regarde la situation concrètement et je vois plusieurs choses. La première, c'est que c'est un minot qui a enflammé le dernier mondial U17. C'était quasiment un des meilleurs joueurs français. Il a attiré l'œil de beaucoup de clubs importants. La deuxième chose que je vois, c'est que on a un côté droit marseillais avec la blessure de Florentovin qui est plein d'incertitudes, entre Bounassar qui sait toujours pas faire un centre et Radonjić qui, même si ça va mieux, ça reste quand même un petit peu une incertitude. Et je vois surtout André Villas-Boas qui a un petit peu le cul entre deux chaises parce que il ose plus convoquer dans le groupe pro le petit Isaac à cause de ses négociations qui se pourrissent, alors qu'on sait que Villas-Boas aimerait l'intégrer et même le faire jouer avec l'équipe pro. Donc on va faire un petit point factuel, calmement, pour s'en rendre compte de la situation. La situation, c'est quoi? C'est que la dernière offre olympienne, après quelques négociations, elle est de 35 000 euros par mois, avec 500 000 euros de prime à la signature. Contre, par exemple, l'offre lilloise, qui, elle, est de 45 000 euros par mois, et de 1 million, ce qui est quand même le double, de prime à la signature. Alors bon, on a vu, moi, le message que j'ai pour le petit Liadji, c'est que ouais, peut-être que l'offre de Lille, elle est mieux. Peut-être que les offres de Dortmund ou de Valence ou d'autres clubs qui ont été cités, financièrement, elles sont un petit peu mieux. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a vu votre gestion à vous, monsieur Moussa Sissoko, qui est l'agent qui gère les intérêts d'Isaac Liadji. On a vu à quel point elle était brillante, par exemple, avec le cas Ousmane Dembélé, qui est parti de Rennes, voilà, très rapidement à Dortmund, donc ça a plus ou moins fonctionné, mais qui là stagne totalement au Bayern Munich et qui a sa carrière au point mort. Donc moi, la pas du gain, je peux le comprendre, la carrière d'un joueur de foot, elle est courte. Moi-même, étant certainement peut-être un petit peu vénal, je serais à sa place, je ferais la même chose. Mais faut penser sur le moyen terme et à la réussite sur le moyen terme justement du petit, qui sera bien plus profitable qu'un calcul court-termiste. Moi je dis juste, rappelez-vous du cas du petit Bilal Boutoba qui était tenu, rappelez-vous, en très haute estime par Marcelo Bielsa, et qui avait fini, voilà, c'est dans la même situation, signera pro, signera pas pro avec l'OM, il avait fini par aller se perdre à Séville avant de revenir la queue entre les jambes à Montpellier. Est-ce que l'IAGI, Isaac, est-ce que t'as envie de ça? Est-ce que t'as envie d'une carrière qui stagne à la Bilal Boutoba? Je ne pense pas. Et le deuxième point de mon message que j'ai pour le petit Isaac, c'est que bon, il venait d'avoir 18 ans, blablabla, 17 ans, c'est un petit jeune, etc., blablabla, on fait pas la chanson. Écoute, t'as peut-être 17 ans, mec, mais t'as quand même ton mot à dire. Alors, la direction olympienne, elle a fait les efforts pour te faire signer. Je veux bien que les premières offres, je peux comprendre qu'elles aient pas été à la hauteur des espérances de ton clan, mais là, il me semble que l'offre de 35 000 euros par mois et de 500 000 euros de prime à la signature, c'est quand même assez raisonnable. Je sais que t'as été formé au club, je sais que tu es originaire de Marseille, je sais que la réussite de Boubacar Camara et de Maxime Lopez, toi, le Marseillais de naissance, eh ben, elle t'inspire. Je sais que tu sais aussi que Florent Thauvin, il va revenir en février, mais qu'il va avoir quand même un poste qui va se libérer, couloir droit de l'attaque marseillaise dans les 6, 7, 8 mois à venir avec le mercato, parce qu'on sait que Florent Thauvin risque de partir. Et tu sais, en plus, qu'André Villas-Boas, il te l'a dit, il croit en toi. Eh ben, moi, j'ai envie de te dire, mec, t'as peut-être que 17 ans, mais maintenant, arrête, quoi. T'as aussi ton mot à dire, et tu peux dire que toi, eh ben, t'as envie de jouer pour le club de ton cœur. À 17 ans, peut-être que t'es encore un minot, mais moi, je pense que tu peux te comporter comme un homme, et tu peux dire, je veux rester à l'OM, je suis maître de ma destinée, et je veux jouer pour mon club formateur. Alors, pour conclure, moi, cette histoire, elle me donne un petit peu la nausée, parce qu'elle symbolise à quel point le foot business, ben, a gangréné, ben, même les plus jeunes qui ont été formés dans le club dont ils sont amoureux. Et j'espère que la raison et l'amour, la passion, on parlait de romantisme avec Cavani, j'espère que cet amour vaincra. Parce que le petit Liadji, il faut qu'il arrête d'écouter les bruits parasites qui l'entourent. Et j'espère qu'on aura un dénouement aussi heureux qu'on a pu avoir avec le cas de Bouba Camara, qui maintenant brille avec l'Olympique de Marseille, qui après de nombreux épisodes, une cour effrénée de Pep Guardiola et de l'état-major de Manchester City, avait fini par signer à l'Olympique de Marseille au mois de mai, dans les derniers instants, tu vois, des négociations qui étaient possibles. Donc, Isaac, toi qui es un vrai Marseillais, toi qui aimes l'OM, arrête d'écouter les autres, fais ce que tu as envie de faire, et ce que tu as envie de faire, bah, c'est évidemment signer à Marseille.
Ah bah voilà. Voilà le message de Jonathan pour Isaac Liadji. Je pensais que c'était un message, tu vois, pour Marseille, en disant bah il faut le revaloriser. Mais finalement non.
Donc ça crée un précédent.
C'est plus raisonnable que ce que je pensais.
Moi, je connais pas le joueur. Je le connais, en effet, comme ça, par rapport à ce que j'ai vu sur la Coupe du Monde du 17.
Il était bon, hein.
Il a été bon. Mais après, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des valeurs, si c'est un jeune qui est travailleur, qui est respectueux des anciens, tout ça. En fait, à la limite, donc, je vais pas me permettre d'avoir un jugement, même en soi, sur le joueur et la personnalité du joueur. Mais au bout d'un moment, en fait, tous les mots qu'on peut avoir dans le foot français sont représentés dans cette histoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, sportivement parlant, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour ce joueur qui a été formé à l'OM, qui peut avoir ses premières minutes...
Qui est né à Marseille.
Né à Marseille, mais qui peut surtout avoir ses premières minutes en pro. Parce que tu donnais l'exemple d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, dans un premier temps, il a quand même fait quelques matchs à Rennes avant de partir. Donc, ouais. Il a pu un peu se mettre au niveau. Mais comment, derrière, on peut développer des valeurs de respect, de travail envers les autres coéquipiers quand déjà on fait un caca nerveux pour avoir 10 000 euros de plus sur son salaire, 35 000 euros à 17 ans. Après, je veux dire, c'est ça le problème. Au niveau des réalités des choses sur le gamin, mais à 17 ans, mais il est perdu déjà.
Ah, bien sûr.
On va lui donner 500 000 euros à la signature. Alors après, chacun est dans son rôle. Moussa Sissoko est dans son rôle en soi de faire traîner la chose.
C'est vrai que c'est un exemple dans la gestion de carrière de jeunes joueurs, en plus, celui-là.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, mais en effet, au bout d'un moment, faut que ça s'arrête. En revanche, je me souviens que Héro, en début de saison, avait pris la décision justement de promouvoir les jeunes du centre de formation.
Ouais. Lucas Perrin,
et puis d'investir. C'était à l'époque d'ailleurs où il y a Bouba Camara qui n'avait pas encore signé sa prolongation de contrat, il me semble.
Ouais, exactement.
Une chose qui a été faite. Donc maintenant, Héro, jusqu'où il va accepter d'aller? Il faut qu'il se fixe une limite, justement, à ne pas dépasser. Parce que sinon, derrière, ça te fout un bordel dans le vestiaire. Et ça veut dire que ça crée un précédent.
Bien sûr.
Et que chaque jeune joueur qui voudra signer,
exactement,
eh ben, pourra frapper à la porte.
Après, c'est symbolique, un départ de Liadji, lors de ce mercato
il
prochain.
Oui, mais il a fait quoi?
On en voudra la direction de l'OM de ne pas avoir
maintenant. Non, il a fait quoi? Il est pour rien aujourd'hui, hein, parce que le pauvre, il subit plus cette situation.
C'est d'abord, c'est pas parents, puis maintenant son conseiller.
Exactement, il subit cette situation.
Mais c'est ça, il y a une différence de cas. Tu penses pas qu'à sa place, moi j'ai jamais été dans ce cas-là, toi, peut-être, je pense pas qu'il a quand même un petit peu son mot, je pense pas qu'il a quand même un petit peu son mot à dire, le gamin.
Mais le problème, c'est que t'es vachement influençable à 17 ans, t'écoutes, il y a tes parents qui te disent non, attends, on va gratter encore plus, ainsi de suite. T'as les gamins aujourd'hui, ils sortent à Clairefontaine, ils ont 13 ans, ils changent la vie de leurs parents parce qu'ils ont des primes à la signature déjà énormes.
J'aimerais.
C'est ça le problème.
Bah, moi, alors, s'il nous écoute, Isaac, le petit Isaac.
En tout cas, même s'il nous écoute pas, on va s'en
sortir. Mais il a tout intérêt à signer à l'OM.
Je vais juste rappeler juste un cas. Un cas d'un joueur qui a été décrié, qu'on a fait passer pour un des parias du football français parce qu'il se comportait mal, etc. Je rappellerai juste que Samir Nasri, avant de partir à Arsenal, re-signe à l'Olympique de Marseille alors qu'il est en fin de contrat pour que l'OM touche une indemnité de transfert. Voilà. Ça, quand t'as un jeune qui vient de Marseille, qui est bien conseillé, parce que le papa de Nasri l'a toujours bien conseillé, je pense que c'est l'exemple à suivre. Donc, j'aimerais que les joueurs comme Liadji, comme, voilà, qui viennent du centre de formation et qui encore plus quand ils sont originaires de l'OM, prennent exemple de du comportement d'un joueur comme Samir Nasri au moment où lui, il a négocié ses contrats.
En revanche, là où on voit deux différences, entre le PSG et l'OM dans la manière justement de gérer ces cas de jeunes joueurs qui sont un peu réticents à signer ce premier contrat professionnel. T'as la décision de l'OM, c'est tant que t'as pas signé, tu joueras pas. Voilà, point, c'est comme ça. Et signe ton contrat et après, tu joueras. Après, au PSG, t'as l'exemple de Kouassi, par exemple, qui n'a toujours pas signé son contrat.
Qui a joué en Ligue des Champions.
Mais Leonardo, lui, il dit tiens, moi, je vais te faire goûter un peu. Je vais t'appâter, je vais te faire sentir ce que c'est. Ah, et après, t'auras envie de signer.
Ouais, je comprends, ouais.
Voilà. Et donc, c'est deux manières de voir les choses.
C'est pas la même chose parce que l'IAGI a quand même vraiment brillé à la Coupe du Monde.
C'est pas pareil parce que Kouassi, tu dois l'appâter parce qu'il est pas du tout sûr de jouer avec cet effectif de star. Alors que là, l'IAGI,
ça peut être le successeur de Florent Thauvin.
Tu sais l'équipe qui a gagné l'équipe de France qui a gagné les championnats du monde du 17 à l'époque des Le Talec, Cinéma Pompol, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment sortis qui ont fait grosse carrière. Donc tu sais
je dis pas que ça soit une grosse carrière, mais en tout cas ce que ça assure c'est qu'il a eu une exposition auprès des recruteurs et que là il est vrai qu'il y a des clubs qui lui font les yeux doux depuis cette compétition. Quand tu parles de Kouassi, très bien, mais quand même de le mettre en Ligue des Champions, ça lui donne de l'exposition aux yeux des autres clubs. Mais l'IAG, il n'a pas besoin de cette exposition-là.
Ouais, quand même.
Ça peut être à double
tranchant. Non, mais attends, si t'as un joueur qui a le niveau en Ligue des Champions, tu vas pas me comparer à un match de Ligue des Champions avec une Coupe du Monde U17.
On va prendre Loïc au 32-16 à 22h12 dans l'after sur RMC, supporter de l'OM. Salut Loïc.
Salut messieurs.
Salut Loïc.
Salut Loïc.
De l'OM, hein, pas de l'OL.
De l'OM, bien sûr.
T'imagines ce qui t'a fait là, le François Pinel?
Non, j'ai dit l'OM. C'est Rudy Garcia qui se trompe, c'est pas moi.
Exactement.
Alors,
qui le garde.
Sur l'IAG, sur Isaac bon, l'IAG, qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place de la direction de l'OM?
T'accéderais à sa demande ou pas? À quel prix?
Non.
Non, il a encore. Il a fait une belle Coupe du Monde, il a fait une bonne préparation physique, il a intégré le groupe de l'équipe première. L'entraîneur lui a dit qu'il comptait sur lui. Maintenant, je crois qu'il a un entourage qui aime pas mal d'argent. Et il faut qu'il se rende à l'évidence qu'il a la chance de faire de sa passion son métier. Donc, d'aller se brûler dans des grands clubs, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux.
Après les noms qu'on cite, Lille, ça fait aussi partie d'une progression.
Alors,
Lille.
Un détail, les gars.
Oui.
Quelle progression de
Lille? Non, mais je veux dire...
Aujourd'hui, moi, je préfère rester à l'OM. On est presque plus sûr de jouer la Ligue des Champions.
Financièrement, tu gagnes le double. Ce que nous disait Jonathan entre Lille et Marseille.
Loïc, François,
effectivement,
je vous donne un détail.
Ça peut lui faire tourner la tête.
Quand les cinq clubs là, il me semble qu'il y a Lille, Arsenal, Valence, Mönchengladbach et je sais plus quel autre club. Voilà. C'est parce que les conseillers de l'IAG ont fait le tri et ont justement exclu les offres de clubs trop huppés où les chances de s'imposer seraient plus restreintes. Mais excusez-moi, voilà.
Elles seraient carrément inexistantes, les chances de s'imposer.
Oui.
Il faut rester un petit peu humble. Il a de grandes qualités, ce jeune homme, mais. Bien sûr, en tant que supporter de l'OM, on veut qu'il joue sous nos couleurs. Après, il faut avoir la reconnaissance du ventre. Il a été formé au club, il a fait toutes ses armes. Maintenant, qu'il porte le maillot de l'équipe première, il fait une, deux, trois belles saisons. Il fait comme Nasri avant de partir, il re-signe.
Et tu fais comme Mbappé, tout simplement aussi. Mbappé, au début, il faisait la gueule, mais il a fait sa saison, il a joué à Monaco, et puis ça a été revendu. Et puis, peut-être que s'il était parti à l'époque où il ne jouait pas encore à Monaco, il aurait eu un salaire peut-être un peu plus important, mais bon, il n'aura pas été gagnant au final.
Ouais,
alors que là, il a joué, il a fait sa Ligue des Champions, il a été bankable, et tout le monde s'y est retrouvé à la fin. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un jeune joueur? T'es dans un environnement que tu connais, tu vas intégrer le groupe professionnel, tu vas faire des matchs de Ligue 1, tout le monde te connaît, tu connais tout le monde, t'es dans un environnement favorable. Mais enfin, je comprends même pas en fait l'idée de partir. C'est incroyable. Mais
oui, c'est sécure. Comme tu dis, c'est sécure. Ouais. Il connaît tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses qualités. Il doit avoir quelques.
Il a moins de pression.
À apprendre et voilà, qui prennent le temps. Ça reste un enfant, ça reste un gamin quoi.
Loïc,
c'est mignon, donc.
Loïc, puisque on parle de l'Olympique de Marseille, est-ce que toi t'es inquiet par rapport au mercato, parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend dire que l'OM, en tout cas ça c'est pas des on-dit, hein, l'OM a besoin d'alléger sa masse salariale pour en vue du fair play financier qui impose aussi de ne pas dépasser un certain montant pour un déficit. Est-ce que tu t'inquiètes pour ce mercato en te disant mince, on va encore nous prendre nos joueurs alors que pour l'instant tout tourne bien?
Ah oui, le seul qu'on peut prendre c'est Strootman, hein.
Ah ça tu le laisses, ouais, tu le laisses partir.
On le laisserait partir.
Mais personne n'en veut visiblement, enfin en tout cas ouais, pas ce salaire là.
C'est compliqué, mais des mecs comme Sanson et compagnie, c'est quand même aujourd'hui assez essentiel à l'effectif quoi.
Donc faut les garder.
Parce qu'on a quand même, il faut reconnaître qu'on a un effectif plutôt restreint et que là on peut pas se permettre de vendre à tour de bras quoi.
Il y a des joueurs qui vont être en fin de contrat à la fin de la saison.
En 2021.
En 2021. Ouais, en 2021. En
2020, oui. 2020, donc, il y a Pelé, il me semble.
Oui, Pelé, ouais.
Mais en 2021, il y a Thauvin, ouais. Il y a Amavi, ouais. Lopez.
Certic,
toujours. Germain. Il avait un sacré contrat. Ouais.
Hein. Germain, non?
Germain aussi, tout à fait.
Il y a Mitroglou. Aussi. Non, mais voilà. Là, de toute manière, il me semble. Alors, les rumeurs.
Donc, ça veut dire. En 2021, pour être clair, il faut les vendre l'été prochain.
L'été prochain, tu les re-signes. Tu les re-signes ou tu les vends. Ouais. C'est tout. Et moi, c'est une rumeur. Hein. Je demande, j'ai entendu ça, de sources assez fiables. Après, tant que c'est pas confirmé par nos experts mercato, ça n'engage que moi. J'ai entendu dire que si un joueur qui était éventuellement sur le point de partir, parce qu'il a des offres d'un montant correct, qu'il est en fin de contrat en 2021, ça serait Maxime Lopez. Alors, à confirmer.
Pour
cet hiver.
Mais faut voir après ce qu'on appelle les montants corrects. Je rappelle quand même que Payet, il est parti pour 15 millions d'euros et pendant 2 ans d'affilée, ça a été le meilleur passeur de Ligue 1. 15 millions d'euros, quoi. On sait pas vendre. On le rachète plus cher 2 ans après en pensant qu'on a racheté une bouteille de Bordeaux, quoi.
Ouais, mais aujourd'hui, Loïc, faut revenir peut-être 3 mois en arrière. Alors, certes, vous avez un super coach et ça a super bien marché.
Ça, c'est vrai.
Mais à l'époque, moi, je me souviens que tout le monde voulait virer la moitié de l'effectif que personne voulait les prolonger. Et que là, justement, avec ces fins de contrat en 2021, t'as peut-être justement l'opportunité d'apporter du sang neuf, une autre mentalité.
Il faut en tirer quand même quelque chose un petit peu de ces joueurs-là. T'es obligé parce que Valcourt ne va pas remettre des sous. Après, là, de toute manière, s'il y a une demande à faire à Jean-Henri Hérault, à Zubizarreta et compagnie, c'est cet hiver. Tu vois que t'as des grandes chances d'être sur le podium et maintenant il faut jouer la deuxième place. On est d'accord, hein, parce que d'être deuxième ou troisième, c'est pas la même chose. Hier, j'entendais Daniel, il disait, oh, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ton intersaison si t'es troisième.
Faut finir deuxième.
Sauf si t'es qualifié directement.
Ouais, mais
parce que
on sait jamais.
La Ligue Europa,
on sait jamais.
Déjà qualifié dans
on sait jamais. Ça peut te foirer ton intersaison. Ça te fait reprendre plus tôt. Pour le mercato, t'es obligé d'attendre de savoir si tu passes les tours préliminaires. C'est un bordel. Finir deuxième, c'est un luxe. Donc, si tu dois jouer la deuxième place, il y a une chose qu'il faut impérativement offrir à Andrés Villas-Boas. C'est deux latéraux. S'il a ressuscité à ma vie, il faut un autre latéral gauche. Et même ça me fait mal au cœur de le dire, mais Sakai, il en perd de vitesse. Bounassar, il sait toujours pas faire en centre. Il faut un mec qui sache centrer côté droit.
C'est pas un pied qui laisse pas au Bounassar, c'est une truelle à la place du pied. Il a de grandes qualités. Il court beaucoup. Physiquement, il est vraiment au top. Il est vaillant. Par contre, il faut reconnaître que ses centres, on a l'impression qu'il centre avec une truelle à la place du pied.
Jonathan, tu joues la Champions League l'année prochaine avec tous ces joueurs qui sont en fin de contrat, mis à part Thauvin. Mais t'en prends.
Ils n'ont pas le niveau pour la Ligue des Champions.
Il y en a aucun.
Si t'es en Ligue des Champions, si t'es en Ligue des Champions, tu les vends. Tu pries pour que McCourt dise, ah tiens, allez, on est en Ligue des Champions, on va remettre un peu de pognon. Tu pries pour ça, hein. C'est tout.
Mais il faut mettre beaucoup de pognon.
Ah ouais.
Parce que le moindre type, c'est 25-30 millions.
Parce que là, avec la structure de l'effectif, là, hein, si on va en Ligue des Champions l'année prochaine, je vous annonce, on refait 0 points. On l'a déjà fait une fois, ça a été la honte, là, les 0 points, on les refait. Hein.
Mais bien sûr, on rentre avec le cul tout rouge de tous les déplacements.
Ouais. Ouais. Très sécunio, Oli. À l'européenne.
Merci beaucoup, Loïc.
L'exigence est de la Ligue des Champions et est bien plus haut que tout ce qu'on peut voir. Hein.
Ouais.
Merci beaucoup Loïc d'être passé dans l'after.
Ciao,
merci
Loïc.
Et bonne fête à toi.
Ouais,
bonne fête à toi et à très bientôt dans l'after sur RMC. On va continuer de parler de l'OM. Alors on parlait des joueurs qui étaient presque en fin de contrat effectivement. Donc on sait que André Villas-Boas, lui, il espère garder tout le monde, y compris Strootman. Là d'ailleurs, faut le garder Strootman.
Strootman, tu peux t'en débarrasser.
Ça, tu t'en débarrasses,
quoi.
Très difficile à vendre.
Le même libre.
Même libre,
il faut le laisser
salaire,
partir. Il faut... Jusqu'en 2023, sous contrat.
T'es obligé. Le salaire, il est énorme.
Financièrement, il faut...
Des joueurs comme Sertic ou comme Strootman, si tu peux leur trouver une porte de sortie, tu les laisses. Tu leur donnes un petit million pour qu'ils s'en aillent. Voilà, il faut le faire parce que ça te plombe ta masse salariale et tu pourrais réinvestir cet argent-là sur... Voilà, pourquoi pas. On l'a dit pour Lyon, t'es à 6 mois de l'euro, il y a des joueurs qui ont peut-être besoin de se montrer. Tu peux trouver des bons coups à faire en prêt. C'est pas interdit d'une part d'être intelligent et
quoi,
de
préparer des bons coups avec des joueurs en prêt.
Non, pour t'assurer la seconde place. J'allais dire, François, ça t'interdit pas non plus dès cet hiver de préparer la saison d'après, chose que à Marseille on ne fait jamais, on n'est jamais foutu de faire, hein, en commençant à prospecter les joueurs qui seront libres à la fin de la saison.
Tu peux faire signer
dès janvier.
Mandanda qui est en fin de contrat en 2021.
Alors ça, c'est un cas
compliqué. Hein.
Ça, c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué parce que sa succession, ça va être... Il n'a pas toujours été irréprochable à Marseille, mais il va laisser des chaussures qui vont être très très grandes à remplir. Je ne sais pas si ça se dit, mais...
Ça va être difficile de se glisser dans ces choses.
C'est un monument, Steve.
Bien sûr.
Allez, à 22h21, on va prendre Mokhtar, supporter de l'OM qui a fait le 32-16. Salut Mokhtar.
Oui, salut les amis.
Salut Mokhtar.
Ça va bien, et toi? On t'entend très très bien.
Ah super, alors je reste à vous.
Voilà, on t'écoute sur le mercato de l'OM. Est-ce que il t'inquiète ce mercato d'hiver à venir?
Est-ce que le mercato m'inquiète? Il m'inquiétait avant la saison. Maintenant, il m'inquiète plus le mercato.
Non, mais dans le sens où si jamais il y a des offres pour certains joueurs, on a parlé de Lopez,
ça peut inquiéter les supporters
de l'OM de voir l'équipe se déconstruire.
Non, comme elle est, comme il faut qu'elle reste. Voilà.
Oui.
On est parti ensemble, on reste ensemble. Moi, j'attends. Pour moi, mon mercato, comme je dis aux collègues, pour moi, mon mercato, c'est Tovin.
Oui, alors Tovin, voilà, retour annoncé à partir de février, a priori.
Tovin.
C'est pas grave, on attend du 4 mois ou 6 mois, on attendra encore un peu.
Ouais, mais il va pas être bon tout de suite, hein, Mokhtar, Tovin. Hein. Il va falloir qu'il en fasse des matchs avant
de faire son niveau. Si tu l'as dans un état correct, mi-mars, fin mars, tu peux t'estimer heureux.
Ah ouais, ça sera très bien, je trouve déjà.
Mais je serai heureux. Là, il est pas là, on est second. Qu'est-ce que je te disais de plus,
hein. Tu voudrais pas un petit renfort ou deux, Mokhtar, quand même? Tu voudrais pas un petit renfort ou deux, là?
Ouais, franchement, ils sont pauvrettes, hein. Ils n'ont pas de monnaie. Laissez-les, qu'ils gardent un peu leur argent. Ils n'ont que ça à jouer. Pour moi, l'équipe, elle est bien. Là. Tu as moyen de faire monter un petit jeune du centre de formation qui vaut le coup, à la limite, reste comme ça. Et faire venir qui sait que tu as un âne.
Le problème, Mokhtar, c'est que là où t'as vraiment des besoins, j'insiste là-dessus, mais c'est au poste de latéraux, et que Villas-Boas juge que les latéraux qui sont à sa disposition du centre de formation sont un petit peu trop tendres. Il y a des joueurs qui pourraient monter. Je pense à Marlon Hacke devant, qui pourrait pointer le bout de son nez. Je pense à Franck Chabrol.
Un peu contre le PSG,
ouais, exactement. Chabrol qu'on a vu aussi deux trois fois, qui est pas mauvais au milieu de terrain. Donc il y a le Kaliadji qui est épineux. Il y a le petit Lucas Perrin qui est quatrième défenseur central dans la hiérarchie.
Mais
au poste de latéral, t'as pas grand-chose, quoi. T'es pauvre.
Ouais, mais écoute, moi je te dis, les petits, il faut les faire monter un petit peu.
Déjà, lesquels? Au poste latéral, lesquels?
C'est celui qui se défonce, celui qui va bien, celui qui est en vie.
Même à la limite, je vais te dire,
en jouant que ce qu'on est en train de jouer, que le championnat, vu comme on est en train de jouer, pour moi, ça me suffit. Vraiment.
Donc, tu ne touches pas à l'effectif actuel.
Tu sais que tu as un gros problème, c'est qu'il n'y a pas que l'OM qui cherche des latéraux. Tu as tous les clubs de France, je pense, qui cherchent un latéral.
Non, mais attends, comme tout le monde y cherche, et que nous, ça fait des mois qu'on se dit qu'on n'a pas d'argent. Eh bien, ne cherche pas.
Ouais.
Fais avec ce que tu as. C'est tout. Reste sur ta position que tu avais dès le départ. Tu vas arriver, tu vas mettre la zizanie, ça sert à rien. Non, reste comme tu es, t'as que ça à jouer. C'est tout.
Il y a un joueur, je trouve, moi, qui a stabilisé, en tout cas, la défense. C'est un Gonzalez.
Gonzalez, ouais, Alvaro.
Et qui est en fin de contrat, qui est prêté, il me semble, avec une
autre. Non, ils ont levé l'option.
D'accord.
Mais consolide ce que tu as déjà, puis après tu verras à la fin de l'année. Moi, je te dis sincèrement, au pire des cas, on finira troisième. Mais pour l'instant, tu vois, au départ, j'avais misé sur la troisième, quatrième place. On est encore mieux que ce que je pensais en ayant tous les soucis qu'on a eus.
vois. J'espère que vous n'aurez pas de blessure en tout cas.
Ouais, non, parce que là, ça, l'effectif est assez restreint. Après, on peut extrapoler, hein, en disant que oui, il est vrai qu'au poste de latéral gauche, il y a quand même Nils Nkunku qui est très prometteur, mais bon, AVB le trouve encore un petit peu vert. Après, attention, hein, on est tous très contents de ce que fait Villas-Boas, de ce que, de la situation de l'OM, mais la seconde partie de saison va être compliquée, va avoir beaucoup de déplacements dans des, sur des terrains très hostiles, Bordeaux, Rennes,
d'ailleurs, la 20e journée,
dans le jeu. Même si, même pendant la longue série de victoires, ça n'a pas toujours été totalement ça. Donc, t'as pas non plus une marge de manœuvre qui est énorme, à mon sens.
On a vu que dès que Payet était suspendu,
c'est ça.
Ça a quoi?
C'est
le
prix Payet, la marge de manœuvre.
Tu crois que les autres, ils ont mieux?
Exactement. Bah, là, là, tu marques un point, Mokhtar.
Oui. Bah oui, personne n'a mieux que tu crois.
Bon.
Moi, franchement, je disais aux collègues, tu vois, en début de saison, quand j'ai vu un peu comment ça partait en live, je vais te dire, je disais, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, tous les gros, ils ont eu les mêmes problèmes.
Ouais.
Et j'ai envie de te dire que même les gros, les, ce que je pensais moi dans l'été, c'est-à-dire les Lyon, les Monaco et les autres tâches, j'ai envie de te dire qu'ils ont eu encore plus de problèmes parce que regarde où ils sont maintenant. Mais... tu sais qu'il allait miser une pièce sur là où on est maintenant, en deuxième.
Pas grand monde. Merci
voilà,
beaucoup, Mokhtar.
Pour moi, la deuxième partie de saison, je vais te dire, elle sera pareille, voire mieux.
Et voilà. Ben, écoute, on, tu sais on pourquoi... le souhaite aux supporters de l'OM en tout cas.
Tu sais pourquoi, attends, Mokhtar, c'est pourquoi elle sera mieux.
Attends, et pour répondre à ta question, j'ai besoin de personnes pour ce mercato.
Et bon, ah, ça marie, la réponse. Et moi, Mokhtar, je te dis un truc. C'est pourquoi elle sera mieux la deuxième partie de saison?
Pourquoi?
Parce que je pense que Benedetto, là, ce qu'on a vu, pour moi, qu'il est beaucoup vu, je vous dis, il est pas à 100%.
Mais il a 30%, le garçon. Et c'est ouais. Fou. Écoute, quand il y aura. Écoute, pourquoi je te dis que le mercato.
Non, physiquement, moi, j'ai physiquement, il est pas à 100%.
Non, mais oui, non, mais même physiquement, mais même au reste. Pourquoi l'équilibre de l'OM, là, cette année, quand Pauvin reviendra.
Ouais, ouais.
Il va amener le point d'équilibre qui nous manque.
Tovin, Payet, voilà, Benedetto, ça fait rêver de
moi. Hein. Meilleur...
Hein? Les trois, Tovin, Payet, Benedetto ensemble, ça peut faire rêver. Hein.
Mais on fait un carnage avec ça. C'est pour moi, non, mais pour moi, sincèrement, le point d'équilibre, ça va être Tovin.
C'est
pour
ça bah, j'espère que t'as raison, mon pote. Hein.
Je préfère ne pas lâcher un franc là, de le mercato. C'est pour envoyer un franc pour dire on a envoyé un franc. Mm. Non, le franc, il fallait l'envoyer.
Ok, Mokhtar. Bah, merci,
Tovin, Mokhtar.
Pour finir, tu n'as pas voulu l'envoyer.
On doit aller en pub, Mokhtar.
Bon, allez, bon
non, salut mon pote, désolé. Et tu nous rappelles. Hein.
Allez, salut Mokhtar, merci de passer dans l'after. Et bonne fête à toi et bonne fête à tous les supporters de l'OM. Vous pouvez continuer évidemment à réagir sur le hashtag RMC Live. Dans un instant, vous aimez ce moment, tous les lundis, le Tour d'Europe avec nos drôles de dames. Simone Rovera qui reviendra sur la claque reçue par l'AC Milan 5-0, battu 5-0 par l'Atalanta Bergame. On viendra aussi bien sûr sur la défaite de la Juve face à la Lazio en Supercoupe d'Italie. Paulo Breitner viendra aussi nous parler de sa Bundesliga chérie, pour l'instant dominée par Leipzig et Gladbach devant un certain Bayern Munich. Et puis on parlera aussi d'ailleurs de la performance de Dortmund, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Julien Laurence sera là pour l'Angleterre, où il s'est passé énormément de choses le week-end dernier. Pogba est revenu, Lampard a battu Mourinho et Liverpool est devenu champion du monde des clubs. Enfin, Fred Hermel, bien sûr, à ne pas manquer avec le Real Madrid, muet contre l'Athletic Bilbao. Et Griezmann, encore buteur ce week-end. On revient tout de suite dans l'after avec les drôles de dames. Et puis il y aura le quiz aussi à ne pas manquer. A tout de suite sur RMC. Avec nous ce soir, Simone Rovera qui va nous parler de week-end italien et de la victoire de la Lazio face à la Juve. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Tout va bien.
Salut Simone.
Tout va bien.
Une Bundesliga pleine de surprises, on en parlera avec toi, Paulo Breitner. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher François, bonsoir tout le monde. Bonsoir,
salut Paulo.
Et puis l'Espagne, bien sûr, le Real, Griezmann, puis même peut-être des infos sur Cavani. Fred Hermel est avec nous, ah. Salut Fred.
Hola chicos.
Comment salut. Ça va?
Salut Fred. Ah bah ça va très très bien. Je m'entends, alors si, un petit message pour la technique, bah, je message. M'entends... Dans, avec direct, un vas-y. Retour dans l'oreille.
Très bien.
Voilà.
Merci
voilà,
pour voilà, ce petit message.
C'est compliqué de se parler. Mais, oui, mais c'est un détail technique.
C'est important.
Mais je vais pas pouvoir parler.
D'accord. Ah. Bah écoute, on va essayer de régler ce problème. Julien voilà. Laurence nous rejoindra dans un instant également pour parler
du resto
de l'Angleterre et notamment de Liverpool, champion du monde des clubs, Liverpool, et puis de Lampard qui a battu Mourinho, du retour de Paul Pogba également. On va commencer, si vous voulez bien, avec l'Italie, Simone, parce qu'on a envie de revenir sur la défaite de la Juve, battue 3-1 par la Lazio lors de la Supercoupe d'Italie, une Supercoupe qui se jouait à Riyad en Arabie Saoudite. Est-ce que ça a quand même eu un impact en Italie, alors que c'est pas le titre le plus prestigieux, la Super Coupe d'Italie là-bas? Est-ce que pour les supporters de la Juve, c'est un coup dur?
Bah oui, ça a été un énorme impact, surtout parce que la défaite 3-1, c'est vraiment, on aurait presque pu dire que c'est un copier-coller de ce qu'on a vu en championnat il y a quelques semaines, soit pour le résultat 3-1, soit pour la façon où la Lazio a bien utilisé, bien maîtrisé tous les points faibles de la Juve, et surtout il a bien utilisé ses points forts, c'est-à-dire cette verticalité, la capacité d'accélérer quand il y a les ballons, et d'utiliser les points faibles de la Juve, qui à Riyadh ont été bien évidents. L'effet que la Juve a terminé encore une fois 10 face à la Lazio, même si ça, les cartons rouges arrivaient toute la dernière seconde du match. Mais il y a vraiment des scénarios très similaires. La chose plus étonnante pour moi, c'est que la Juve, encore une fois, avait choisi Maurizio Sarri de mettre ses tridents qui fait rêver les supporters et pour lesquels il a été parfois un peu accusé d'avoir un peu peur de l'utiliser, c'est-à-dire Dybala, Higuain et Ronaldo, et c'est pour moi probablement la clé de sa défaite. Défendre avec trois attaquants comme ça face à l'Udinese, c'est simple, et la Juve peut donner tous les spectacles qu'elle veut. Face à la Lazio, qui est une équipe qui joue bien, qui est solide, qui est compacte, où les deux attaquants sont les premiers défenseurs, parce qu'Immobile Correa, au-delà de ce qu'ils font devant, font un travail remarquable derrière, c'est mettre en danger, ouais, et prendre un gros risque, et le risque n'a pas payé.
C'est marrant parce qu'au PSG, on avait les mêmes débats, mais ça fonctionne avec quatre attaquants. Hein.
Ouais.
Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria. Et là, tu nous dis qu'avec trois, c'est pas possible de jouer.
D'une manière plus générale, Simone, quel premier bilan peut tirer
qui ont dépassé la trentaine et,
ouais, et qui font pas les efforts.
C'est
quoi.
Différent.
Ouais. Ouais. Simone, d'une manière générale, quel bilan on peut tirer des six premiers mois de Sarri à la Juve?
Bah, c'est plutôt négatif, parce que au-delà du fait que le classement dit que la Juve est première avec l'Inter, mais elle a beaucoup moins de points de la dernière, 7 points en moins, si je ne me trompe pas, on a vite compris que Sarri n'a pas encore donné une identité des jeux à cette Juve. Il y a eu certaines phases des jeux intéressantes, surtout face à des grands adversaires, les plus grands adversaires, Naples en début de saison, l'Atletico, l'Inter. On a vu des choses, on a vu une rapidité des jeux, une possession brillante, on a vu des choses sûrement avec une ADN, une claire empreinte Sarri. Mais pour le reste, la Juve est trop fragile derrière, elle casse beaucoup de buts. La Juve n'est pas solide, leader du classement, a perdu les premiers titres de la saison. Et dans les dernières semaines, on a eu l'impression vraiment que seulement les retours en forme de Cristiano avaient caché un peu toujours les mêmes problèmes.
Ouais.
Donc, il y a un parti, on peut dire, politique presque de nostalgique de Allegri qui revient un peu en force ces derniers jours. Mais au-delà de l'idée de Sarri versus Allegri, qui c'est quand même un débat intéressant qu'on a déjà fait dans l'after entre les jeux et les résultats, je trouve que à cette Juve manque quelque chose. Les mercato a été un pari très très important entre les joueurs arrivés libres comme Rabiot et Ramsey, les 70 millions sur De Ligt qui fait voir de bonnes choses, mais depuis 4 mois
encore ça. Match, hein. Il n'était pas titulaire,
matchs, c'est un titulaire.
Il y en a aucun qui joue surtout.
Donc il y a vraiment, oui, il y a aucune qui joue, c'est l'équipe de l'année dernière. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qu'on se pose en Italie sur ce que ça arrive à apporter. Les joueurs le défendent en disant on verra en 2020 la vraie Juve de Sarri, mais déjà perdre n'aide jamais, et la tête qui fait Cristiano quand reçoit sa médaille d'argent.
Ouais, il enlève la médaille. Et Adrien Rabiot qui est resté sur le banc, hein. C'était Matuidi qui était titulaire côté Juve. C'est un problème pour la suite de la saison, grave pour lui.
Qui apparemment n'est pas très content, mais il venait des 4 matchs titulaires. Il avait bien, je pense qu'il avait bien saisi sa chance parce qu'il avait été plutôt bon dans les matchs face à Leverkusen, mais surtout face à la Sampdoria. On avait vu un Rabiot, surtout en deuxième mi-temps, meilleur, c'était pour moi le meilleur match de Rabiot cette saison. Il n'a pas joué beaucoup, hein, il est à une dizaine de matchs, pas plus. Donc c'est vrai qu'on pouvait s'attendre beaucoup plus.
Non, Simone, tu ne pouvais pas t'attendre beaucoup plus de la part d'un joueur qui a passé quasiment toute la saison sans jouer. C'était illusoire de penser qu'il reprendrait le rythme dans un championnat qui est quand même exigeant, dans un club qui est aussi exigeant et avec un coach qui demande autant d'intensité physique, qu'il arriverait à s'imposer sur les 6 premiers mois. Pour moi, c'est normal que cette situation, Adrien.
On aurait pu imaginer que Sarri l'aurait pu aider à enchaîner plus tôt.
Ouais, mais il n'a pas joué pendant un an. Hein.
Au-delà de ça, ce qui est gênant, je trouve, avec le caractère de Rabiot, c'est comme tu l'as dit, il a enchaîné 4 titularisations. Ça s'est bien passé. Eh ben écoute, t'es sur le banc pour une finale de coupe. Bah écoute, tu baisses la tête, t'attends que ça passe et puis tu bosses et puis tu essaies de revenir dans le 11 sur le match d'après. Dès qu'il y a quelque chose, un grain de sable qui va pas chez lui, on a l'impression que ça baisse les bras, qu'il est pas content, qu'il fait le bougon, ainsi de suite.
Il a vraiment fait la tête là ?
Non, bah il a pas fait la tête, mais c'est une situation un peu.
Il s'attendait global, à plus jouer.
Il s'attendait peut-être sûrement d'avoir un peu plus de temps de jeu en début de saison. Il devait être titulaire sur le premier match. On découvre les jours du match qu'il joue pas. Il avait fait une belle pré-saison. Sarri l'a même fait comprendre que c'était un problème presque plus mental que physique à un certain moment parce que il avait découvert d'être un peu en retard de préparation, d'avoir pas le même niveau que les autres et ça l'avait un peu gêné à niveau mental. Donc on n'a pas bien compris quelle était la vraie attente qu'il y avait Sarri sur ses joueurs. Et attention, deuxième partie de saison, ça va commencer. Bettencourt a pris un carton rouge en Supercoupe. Il a pris 3 matchs de suspension. Kedir est blessé jusqu'à mars. Donc, il doit repartir encore une fois avec Rabiot sur probablement les 3 premiers matchs du 2020. Et c'est une autre occasion pour lui d'enchaîner.
Moi, je ne me fais pas de soucis pour Adrien.
Qu'est-ce qui passe ? Il y a eu plein de rumeurs de départ, de prêts, de clubs qui sont positionnés sur lui. Moi, pour ce que sont mes informations, la Juve aujourd'hui n'a aucune intention.
Mais oui.
Et tu vas voir qu'il va s'imposer. Emre Can, je crois qu'il était dans le viseur de Leonardo aussi.
Emre Can, c'est un joueur qui était exclu de la liste Champions.
Pour la Ligue des Champions.
Oui. De la Juve, et à partir de ce jour-là, je peux dire que c'est presque plus un joueur de football. Quand il rentre sur le terrain, il fait rien. C'est agaçant. C'est pas un joueur de football, ça. Non. C'est quelqu'un qui marche.
Vous verrez qu'Adrien, il s'imposera en deuxième partie de saison. C'est sûr.
Bon, Simone, on va donc très rapidement, la Lazio quand même qui confirme sa bonne saison. Ils sont troisième hein, quand même de Serie A. Et puis cette victoire, c'est un peu la cerise sur le gâteau avec Simone Inzaghi qui remporte sa deuxième Super Coupe. Je voulais quand même qu'on s'attarde un peu plus sur le cas de l'AC Milan, battu donc hier lors des 17e journées de Serie A, 5-0 par l'Atalanta Bergame.
Ah ouais.
Ça doit faire peur à Fred, hein, puisque l'Atalanta est adversaire de Valence en 8e de finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si tu trembles, hein, Fred Hermel. Mais en tout cas, du côté de l'AC Milan, on tremble quand on voit cette équipe. Hein. C'est une catastrophe.
Bah, alors, oui, après, aujourd'hui en Italie, il y a une guerre qui, pour moi, c'est presque médiatique, politique, que ça concerne l'AC Milan. Parce que, oui, c'est vrai que Milan en a pris 5 face à l'Atalanta. On a passé, les dernières semaines, à dire qu'est-ce que c'est beau l'Atalanta, la surprise de la Ligue des Champions. C'est pas un club en bois, c'est un club qui est dans les 16 meilleures équipes d'Europe. La saison dernière, l'Atalanta avait mis 3-0 en coupe à la Juve avec Cristiano et l'avait éliminé. Elle avait mis 4 ans à l'Inter en championnat. C'est une équipe qui est capable de faire des exploits extraordinaires face à des équipes plus fortes. Imagine, face à une équipe qui est plus faible. Parce qu'aujourd'hui, Milan est plus faible.
Bah oui.
Ce qui a créé la grosse polémique en Italie, au-delà de la défaite, il y a eu deux épisodes. Les premiers, c'est un peu people, réseaux sociaux. Le fait qu'hier soir, Rafael Leao était en boîte de nuit à boire, à fumer, c'est selon une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et ça fait énerver énormément les supporters. Et l'autre, c'est des mots très très forts de Boban qui a dit, en bref, sur le mercato de janvier, on va voir ce que la propriété nous permet de faire.
Ouais,
donc, au-delà du résultat sportif qui est catastrophique, Milan a déjà changé un entraîneur cette année, elle est passée de Gianpaolo. Pour moi, les plus grandes erreurs qu'a fait Milan cette année n'est pas les mercato, c'est le choix de l'entraîneur. Mmh. À Pioli, qui est quelqu'un un normalisateur, on peut dire, c'est quelqu'un qui prend les choses prend les équipes quand les choses vont mal cette dernière année et plutôt fait des bons résultats.
Ouais.
Mais les gros problèmes, c'est que
ils vont prendre Zlatan ou pas
évidente. Alors, c'était il y a eu un, c'est vraiment une drague réciproque, mais il y a des moments où on dirait que Zlatan est intéressé en Milan et Milan n'est pas très chaud, et là c'est l'inverse, Milan est très intéressé et Zlatan n'est pas très chaud. Quand les choses vont un peu mieux, Milan dit bah peut-être on n'a pas besoin. Quand les choses vont plus mal, Milan, les dirigeants se disent bah mais peut-être
Zlatan, il a 36 ans maintenant. Simonet, franchement, quand tu regardes la composition d'équipe du Milan, quand tu regardes les joueurs qui sont sur le banc, c'est quand même, il y a quand même, c'est quand même censé être une bonne équipe, quoi. Quand tu regardes juste les individualités,
c'est pas horrible.
Ah, il y a des bons joueurs dans cette équipe. Hein.
Aujourd'hui, il y avait une critique énorme sur la Gazzetta dello Sport sur les jeunes, en disant qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas les niveaux. Les problèmes, c'est que pour moi, les joueurs qui n'ont pas vraiment les niveaux, ce sont pas les jeunes, c'est des jeunes qui sont au Milan depuis des années, comme Souso, comme Kessi. C'est pas les mercato qui a fait cet été les dirigeants de Milan qui ont parié sur certains joueurs comme Duarte, que peut-être c'est un gros erreur de casting, mais sur la qualité de Bennacer, pour moi, on peut pas discuter. Sur le potentiel de Léa,
il est bon Bennacer là.
Et on va faire voir de bonnes choses, mais les problèmes, c'est que de l'autre côté, si tu fais pas jouer Bennacer, tu fais jouer Bilia, et Bilia aujourd'hui c'est
pas possible. Il est cuit.
Dans aucune équipe de top niveau.
Simonet, cinq premières champions. On va devoir te libérer bientôt, mais juste un dernier mot, puisqu'il y a pas mal de gens sur le hashtag AMC Live qui nous posent la question, puisque c'est sorti dans un journal italien. Goulam à l'OM d'après la Repubblica. Est-ce que tu as entendu parler de cette info?
Est-ce que c'est fiable, Goulam, déjà,
le joueur de Naples?
Non, c'est fiable, mais pour ce qui sont mes infos, Goulam, aujourd'hui, c'est un joueur qui est très, très, très loin du niveau qu'il avait il y a 2 ans. Certaines personnes à Naples me disent qu'il ne s'est vraiment jamais remis de sa blessure au ligament croisé. On se rappelle, il fait les croisés il y a 2 ans. Ouais. Après, il s'est fait la rotule parce qu'il reprend trop tôt. Du côté du joueur, ils disent non, c'est pas parce qu'il reprend trop tôt, mais du côté du club, mais on m'a dit que quand même, il a accéléré trop sa récupération et ça l'a gêné. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance à ces joueurs pour Naples et pour Carlo Ancelotti, parce qu'il avait toujours des soucis physiques. Il n'arrivait pas à être au top.
Attention au troc à l'arnaque Troutman numéro 2 là, dans ce cas-là.
Voilà, merci beaucoup.
Sur la qualité du joueur, c'est qu'il avait fait
une carrière. On se souvient,
mais Simon, c'est un très bon joueur. Pareil, Troutman, il avait été excellent à la Roma, mais il est arrivé à Marseille, c'était un bidon maintenant.
Merci beaucoup, Simonet. Merci, merci. À très bientôt.
Joyeux Noël.
Bah oui, joyeux Noël à toi. Bonne fête à toi. Exceptionnellement, on te libère maintenant. On retrouve dans un instant la suite de nos drôles de dames avec Fred Hermel, notamment, qui va nous parler de l'Espagne et peut-être nous en dire un peu plus sur l'hypothèse Cavani du côté de l'Atlético de Madrid. A tout de suite sur RMC.
C'est jusqu'à minuit.
L'After Foot. François Pinet.
22h31 sur RMC, on est de retour pour l'after jusqu'à minuit. Gros programme en ce 23 décembre. On va parler de tout ce qui s'est passé dans le week-end européen. Il s'en est passé beaucoup avec nos drôles de dames, bien sûr, c'est tout de suite. Avec nous ce soir, Simone Rovera, qui va nous parler de week-end italien et de la victoire de la Lazio face à la Juve. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Tout va bien.
Salut Simone.
Tout va bien.
Une Bundesliga pleine de surprises, on en parlera avec toi, Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir mon cher François, bonsoir tout le monde. Bonsoir,
salut Polo.
Et puis l'Espagne, bien sûr, le Real, Griezmann, puis même peut-être des infos sur Cavani. Fred Hermel est avec nous. Ah. Salut Fred.
Hola chicos.
Comment ça va?
Salut Fred. Ah bah ça va très très bien. Je m'entends. Alors si un petit message pour la technique, je m'entends avec un retour dans l'oreille.
Très bien.
Voilà.
Merci pour ce petit message.
C'est compliqué de te parler. Mais oui, mais c'est un détail technique.
C'est important.
Mais je ne vais pas pouvoir parler.
D'accord. Bah écoute, on va essayer de régler ce problème. Julien Laurence nous rejoindra dans un instant également pour parler
du resto
de l'Angleterre et notamment de Liverpool, champion du monde des clubs, Liverpool, et puis de Lampard qui a battu Mourinho, du retour de Paul Pogba également. On va commencer, si vous voulez bien, avec l'Italie, Simone, parce qu'on a envie de revenir sur la défaite de la Juve, battue 3-1 par la Lazio lors de la Supercoupe d'Italie, une Supercoupe qui se jouait à Riyad, en Arabie Saoudite. Est-ce que ça a quand même eu un impact en Italie, alors que c'est pas le titre le plus prestigieux, la Supercoupe d'Italie là-bas? Est-ce que pour les supporters de la Juve, c'est un coup dur?
Bah oui, ça a été un énorme impact, surtout parce que la défaite 3-1, c'est vraiment, on aurait presque pu dire que c'est un copier-coller de ce qu'on a vu en championnat il y a quelques semaines, soit pour le résultat 3-1, soit pour la façon où la Lazio a bien utilisé, bien maîtrisé tous les points faibles de la Juve, et surtout il a bien utilisé ses points forts, c'est-à-dire cette verticalité, la capacité d'accélérer quand il y a les ballons, et d'utiliser les points faibles de la Juve, qui à Riyad ont été bien évidents. L'effet que la Juve a terminé encore une fois 10 face à la Lazio, même si ça, les cartons rouges arrivaient tout à la dernière seconde du match. Mais il y a vraiment des scénarios très similaires. La chose plus étonnante pour moi, c'est que la Juve, encore une fois, avait choisi, Maurizio Sarri, de mettre ses tridents qui fait rêver les supporters et pour lesquels il a été parfois un peu accusé d'avoir un peu peur de l'utiliser, c'est-à-dire Dybala, Higuain et Ronaldo, et c'est pour moi probablement la clé de sa défaite. Défendre avec trois attaquants comme ça face à l'Udinese, c'est simple, et la Juve peut donner tous les spectacles qu'elle veut. Face à la Lazio, qui est une équipe qui joue bien, qui est solide, qui est compacte, où les deux attaquants sont les premiers défenseurs, parce qu'Immobile Correa, au-delà de ce qu'ils font devant, font un travail remarquable derrière, c'est mettre en danger, ouais, et prendre un gros risque, et le risque n'a pas payé.
C'est marrant parce qu'au PSG, on avait les mêmes débats, mais ça fonctionne avec quatre attaquants. Hein.
Ouais.
Mbappé, Icardi, mais... Neymar, Di Maria. Et là, tu nous dis qu'avec trois, c'est pas possible de jouer.
D'une manière plus générale, Simone, quel premier bilan peut tirer
qui ont dépassé la trentaine et,
ouais, qui font pas les efforts.
C'est différent.
Ouais. 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 Simone, d'une manière générale, quel bilan on peut tirer des six premiers mois de Sarri à la Juve?
Bah, c'est plutôt négatif, parce que au-delà du fait que le classement dit que la Juve est première avec l'Inter, mais elle a beaucoup moins de points de la dernière, 7 points en moins, si je ne me trompe pas, on a vite compris que Sarri n'a pas encore donné une identité des jeux à cette Juve. Il y a eu certaines phases des jeux intéressantes, surtout face à des grands adversaires, les plus grands adversaires, Naples en début de saison, l'Atletico, l'Inter. On a vu des choses, on a vu une rapidité des jeux, une possession brillante, on a vu des choses sûrement avec une ADN, une claire empreinte Sarri. Mais pour le reste, la Juve est trop fragile derrière, elle casse beaucoup de buts. La Juve n'est pas solide, leader du classement, a perdu les premiers titres de la saison. Et dans les dernières semaines, on a eu l'impression vraiment que seulement les retours en forme de Cristiano avaient caché un peu ces deux, ouais, toujours les mêmes problèmes.
Ouais.
Donc, il y a un parti, on peut dire, politique presque de nostalgique de Allegri qui revient un peu en force ces derniers jours. Mais au-delà de l'idée de Sarri versus Allegri, qui c'est quand même un débat intéressant qu'on a déjà fait dans l'after entre les jeux et les résultats, je trouve que à cette Juve manque quelque chose. Les mercato étaient un pari très très important entre les joueurs arrivés libres comme Rabiot et Ramsey, les 70 millions sur De Ligt qui fait voir de bonnes choses, mais depuis 4 mois
encore ça.
Match,
hein. Il n'était pas titulaire,
matchs, ouais, pas titulaire.
Il n'y en a aucun qui joue surtout.
Donc il y a vraiment, oui, il y a aucune qui joue, c'est l'équipe de l'année dernière. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qu'on se pose en Italie sur ce que ça arrive à apporter. Les joueurs le défendent en disant on verra en 2020 la vraie Juve de Sarri, mais déjà perdre n'aide jamais, et la tête qui fait Cristiano quand reçoit sa médaille,
ah oui, oui,
d'argent.
Ouais, il enlève la médaille. Et Adrien Rabiot qui est resté sur le banc, hein. C'était Matuidi qui était titulaire côté Juve. C'est un problème pour la suite de la saison, grave, pour lui.
Qui apparemment n'est pas très content, mais il venait des 4 matchs titulaires. Il avait bien, je pense qu'il avait bien saisi sa chance parce qu'il avait été plutôt bon dans les matchs face à Leverkusen, mais surtout face à la Sampdoria. On avait vu un Rabiot, surtout en deuxième mi-temps, meilleur. C'était pour moi les meilleurs matchs de Rabiot cette saison. Il n'a pas joué beaucoup, hein, il est à une dizaine de matchs, pas plus. Donc c'est vrai qu'on pouvait s'attendre beaucoup plus.
Non, Simone, tu ne pouvais pas t'attendre beaucoup plus de la part d'un joueur qui a passé quasiment toute la saison sans jouer. c'était illusoire de penser qu'il reprendrait le rythme dans un championnat qui est quand même exigeant, dans un club qui est aussi exigeant et avec un coach qui demande autant d'intensité physique, qu'il arriverait à s'imposer sur les 6 premiers mois. Pour moi, c'est normal que cette situation, Adrien.
On aurait pu imaginer que Sarri l'aurait pu aider à enchaîner plus tôt.
Ouais, mais il n'a pas joué pendant un an. Hein.
Au-delà de ça, ce qui est gênant, je trouve, avec le caractère de Rabiot, c'est, comme tu l'as dit, il a enchaîné 4 titularisations. Ça s'est bien passé. Eh ben écoute, t'es sur le banc pour une finale de coupe. Bah écoute, tu baisses la tête, t'attends que ça passe et puis tu bosses et puis tu essaies de revenir dans le 11 sur le match d'après. Dès qu'il y a quelque chose, un grain de sable qui va pas chez lui, on a l'impression que ça baisse les bras, qu'il est pas content, qu'il fait le bougon, ainsi de suite.
Il a vraiment fait la tête là ?
Non, bah il a pas fait la tête, mais c'est une situation un peu.
Il s'attendait global, à plus jouer.
Il s'attendait peut-être sûrement d'avoir un peu plus de temps de jeu en début de saison. Il devait être titulaire sur le premier match. On découvre les jours du match qu'il joue pas. Il avait fait une belle pré-saison. Sarri l'a même fait comprendre que c'était un problème presque plus mental que physique à un certain moment parce que il avait découvert d'être un peu en retard de préparation, d'avoir pas le même niveau que les autres et ça l'avait un peu gêné à niveau mental. Donc on n'a pas bien compris quelle était la vraie attente qu'il y avait Sarri sur ses joueurs. Et attention, deuxième partie de saison, ça va commencer. Bettencourt a pris un carton rouge en Supercoupe. Il a pris 3 matchs de suspension. Kedira est blessé jusqu'à mars. Donc, il doit repartir encore une fois avec Rabiot sur probablement les 3 premiers matchs du 2020. Et c'est une autre occasion pour lui d'enchaîner.
Moi, je ne me fais pas de soucis pour Adrien.
Qu'est-ce qui passe ? Il y a eu plein de rumeurs de départ, de prêts, de clubs qui sont positionnés sur lui. Moi, pour ce que sont mes informations, la Juve aujourd'hui n'a aucune intention.
Mais oui.
Et tu vas voir qu'il va s'imposer. Emre Can, je crois qu'il était dans le viseur de Leonardo aussi.
Emre Can, c'est un joueur qui était exclu de la liste Champions.
Pour la Ligue des Champions.
Oui. De la Juve, et à partir de ce jour-là, je peux dire que c'est presque plus un joueur.
Ouais.
Football. Quand il rentre sur le terrain, il fait rien. C'est agaçant. Hmm. C'est pas un joueur de football, ça. C'est quelqu'un qui marche.
Vous verrez qu'Adrien, il s'imposera en deuxième partie de saison. C'est sûr.
Bon, Simone, on va donc très rapidement, la Lazio quand même qui confirme sa bonne saison. Ils sont troisième hein, quand même de Serie A. Et puis cette victoire, c'est un peu la cerise sur le gâteau avec Simone Inzaghi qui remporte sa deuxième Super Coupe. Je voulais quand même qu'on s'attarde un peu plus sur le cas de l'AC Milan, battu donc hier lors des 17e journée de Serie A, 5-0 par l'Atalanta Bergame.
Ah ouais.
Ça doit faire peur à Fred, hein, puisque l'Atalanta est adversaire de Valence en 8e de finale de Ligue des Champions. Je sais pas si tu trembles, hein, Fred Hermel. En tout cas, du côté de l'AC Milan, on tremble quand on voit cette équipe. Hein. C'est une catastrophe.
Alors, oui, après, aujourd'hui en Italie, il y a une guerre qui, pour moi, c'est presque médiatique, politique, que ça concerne l'AC Milan. Parce que, oui, c'est vrai que Milan en a pris 5 face à l'Atalanta. On a passé, il y a les dernières semaines, à dire qu'est-ce que c'est beau l'Atalanta, la surprise de la Ligue des Champions. C'est pas un club en bois, c'est un club qui est dans les 16 meilleures équipes d'Europe. La saison dernière, l'Atalanta avait mis 3-0 en coupe à la Juve avec Cristiano et l'avait éliminé. Elle avait mis 4 ans à l'Inter en championnat. C'est une équipe qui est capable de faire des exploits extraordinaires face à des équipes plus fort, imagine, face à une équipe qui est plus faible, parce qu'aujourd'hui Milan est plus faible. Ce qui a créé la grosse polémique en Italie, au-delà de la défaite, il y a eu deux épisodes. Les premiers, c'est un peu people, réseaux sociaux, le fait que hier soir Rafael Leao était en boîte de nuit à boire, à fumer, c'est selon une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, et ça fait énerver énormément les supporters. Et l'autre, c'est des mots très très forts de Boban, qui a dit, en bref, sur le mercato des janvier, on va voir ce que la propriété nous permet de faire.
Ouais,
donc, au-delà du résultat sportif qui est catastrophique, Milan a déjà changé un entraîneur cette année, elle est passée de Gianpaolo. Pour moi, les plus grandes erreurs qu'a fait Milan cette année n'est pas les mercato, c'est le choix de l'entraîneur. À Pioli, qui est quelqu'un d'un normalisateur, on peut dire, c'est quelqu'un qui prend les choses prend les équipes quand les choses vont mal cette dernière année et plutôt fait des bons résultats.
Ouais.
Mais les gros problèmes, c'est que
ils vont prendre Zlatan ou pas ? Cassure
évidente. c'est vraiment une drague réciproque, mais il y a des moments où on dirait que Zlatan est intéressé à Milan et Milan n'est pas très chaud. Et là, c'est l'inverse. Milan est très intéressé et Zlatan n'est pas très chaud. Quand les choses vont un peu mieux, Milan dit bah peut-être on n'a pas besoin. Quand les choses vont plus mal, Milan, les dirigeants se disent bah mais peut-être
ouais, Zlatan. Il a 36 ans maintenant. Simone. Franchement, quand tu regardes la composition d'équipe du Milan, quand tu regardes les joueurs qui sont sur le banc, c'est quand même, il y a quand même, c'est quand même censé être une bonne équipe, quoi. Quand tu regardes juste les individualités,
c'est pas horrible.
Ah, des bons joueurs dans cette équipe. Hein.
Aujourd'hui, il y avait une critique énorme sur la Gazzetta dello Sport sur les jeunes, en disant qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas les niveaux. Les problèmes, c'est que pour moi, les joueurs qui n'ont pas vraiment les niveaux, ce sont pas les jeunes, c'est des jeunes qui sont au Milan depuis des années, comme Souso, comme Kessi. C'est pas les mercato qui a fait cet été les dirigeants de Milan qui ont parié sur certains joueurs comme Duarte, que peut-être c'est un gros erreur de casting, mais sur la qualité de Bennacer, pour moi, on peut pas discuter. Sur le potentiel de Léa,
il est bon Bennacer là.
Et on va faire voir de bonnes choses, mais les problèmes c'est que de l'autre côté, si tu fais pas jouer Bennacer, tu fais jouer Bilia, et Bilia aujourd'hui c'est
pas possible. Il est cuit.
Dans aucune équipe du top niveau.
Simone, des cinq premières champions. On va devoir te libérer bientôt, mais juste un dernier mot puisqu'il y a pas mal de gens sur le hashtag AMC Live qui nous posent la question puisque c'est sorti dans un journal italien. Goulam à l'OM d'après la Repubblica. Est-ce que tu as entendu parler de cette info?
Est-ce que c'est fiable, Goulam, déjà,
le joueur de Naples?
Non, c'est fiable, mais pour ce qui sont mes infos, Goulam, aujourd'hui, c'est un joueur qui est très, très, très loin du niveau qu'il avait il y a deux ans. Certaines personnes à Naples me disent qu'il ne s'est vraiment jamais remis de sa blessure au ligament croisé. On se rappelle, il fait les croisés il y a deux ans. Ouais. Après, il s'est fait la rotule parce qu'il reprend trop tôt. Du côté du joueur, ils disent non, ce n'est pas parce qu'il reprend trop tôt, mais du côté du club, mais on m'a dit que quand même, il a accéléré trop sa récupération et ça l'a gêné. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance à ces joueurs pour Naples et pour Ancelotti parce qu'il avait toujours des soucis physiques. Il n'arrivait pas à être au top.
Attention au troc à l'arnaque Troutman numéro 2 là, dans ce cas-là.
Voilà, merci beaucoup.
Sur la qualité du joueur, c'est qu'il avait fait
quand même. On se souvient,
mais Simon, un très bon joueur. Pareil, Troutman, il avait été excellent à la Roma, mais il est arrivé à Marseille, exactement. C'était un bidon maintenant.
Merci beaucoup, Simone. Merci.
Ciao,
à très bientôt.
Joyeux Noël.
Ben oui, joyeux Noël à toi. Bonne fête à toi. Exceptionnellement, on te libère maintenant. On retrouve dans un instant la suite de nos drôles de dames avec Fred Hermel, notamment, qui va nous parler de l'Espagne et peut-être nous en dire un peu plus sur l'hypothèse Cavani du côté de l'Atlético de Madrid. A tout de suite sur RMC.
RMC, 21h minuit.
L'afterfoot.
RMC vous souhaite
de très bonnes fêtes.
Mathieu ne fait rien à moitié. Une passion pour son métier de gendarme. 200 likes sur sa photo de mariage. 2500 km de trail chaque année. Parce que dans tout ce qu'il vit, Mathieu s'engage. Tego s'engage à le protéger. Prévoyance, santé, retraite, assurance. Tego assure toutes vos vies engagées. Rendez-vous sur tego.fr.
Le forfait 2 heures 100 mégas de SFR débarque chez Thomas, sage comme une image.
J'ai été sage toute l'année, ça y est, le Père Noël m'a apporté mon cadeau. Le forfait 2 heures 100 mégas à 0 euros. Maintenant, je peux refaire des blagues téléphoniques à mon oncle, appeler les copains jusqu'à pas d'heure, envoyer des gros mots à ma petite sœur par texto. Ah, la vie normale reprend son cours.
Pendant le Noël de SFR jusqu'au 6 janvier, partagez encore plus de bons moments avec le forfait 2 heures 100 mégas à 0 euros par mois pendant un an, puis 5 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions avec portabilité du numéro. Prix client box, engagement 12 mois. Écoutez bien. Vous n'entendez rien? Non? Toujours pas? Et pourtant, ils sont là. En France, plus de 150 000 personnes vivent dans la rue et dans l'indifférence. Aidez-nous à agir. Donnez sur don.fondationabbépierre.org. Merci. Fondation Abbé Pierre. Être humain.
RMC au 732-16.
75 centimes par envoi plus prix du SMS.
Quatre célébrités sont envoyées au bout du monde.
La règle du grand reporter, c'est d'avoir toujours sur soi son passeport, $50 en liquide et en plus, sa flotte.
Ils ne sont pas au bout de leur surprise.
Ce con de poisson vient de bouffer mon passeport.
Rendez-vous chez les Malawa, une comédie familiale de James Hutt avec Christian Clavier, Michael Youn, Ramzi Bedia et Sylvie Testu.
Quelqu'un a un harpon.
Le 25 décembre au cinéma avec RMC.
Chaque soir jusqu'à minuit, profitez de la troisième mi-temps dans l'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Débrief, analyse, commentaires à chaud. Retrouvez tous les conseils de nos consultants pour vos prochains paris sportifs.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
L'Afterfoot.
François Pinet.
22h48, ravi de vous retrouver pour l'after jusqu'à minuit. Jonathan McCarty, Damien Perrinel et nos drôles de dames qui sont toujours là. Fred Hermel en Espagne, Julien Laurence et Paolo Breitner. Dans un instant, on parlera de l'Angleterre.
Paolo Breitner.
Paolo Breitner. Pardon, Paolo.
Paolo.
Pardon, excuse-moi.
Paolo, c'est pour les sudistes.
Excuse-moi, je pensais que tu étais du sud de l'Allemagne, tu vois.
Non,
pas du tout.
Ah bah non, surtout pas.
Donc, Paolo Breitner qui va nous parler dans un instant de la Bundesliga. Ouais. Parce qu'il se passe des choses. Au moins, en Bundesliga, il y a du suspense. C'est pas le cas en Ligue 1.
Arrête. Bah, la Ligue 1, c'est très bien cette année.
Pour la première place.
Suspense.
Pour la première place.
Non, mais c'est très spécial parce qu'on est peut-être tout simplement en train de revenir à une situation normale, entre guillemets. Alors, parce que je dis normal.
Ça sera à toi dans un instant. Hein, donc, commence pas à développer. Hein.
Ah, pardon.
Ça sera à toi à partir de 23h.
C'est l'extensionnisme. Non mais ça c'est Paulo, tu vois, c'est dans ta culture, t'as faut toujours que tu t'étendes.
C'est ma faute. Et c'est prouvé par l'histoire en plus, Fred, tout ça.
Oui. Autant pour moi.
Non, il n'y a pas de problème.
Empiriquement, dans une dizaine, les propos de Fred sont d'une grande justesse.
Mais Paulo, tu peux intervenir quand tu veux, bien sûr. On va parler d'Edinson Cavani avec Fred Hermel. Fred, parce que avant de revenir sur la 18e journée de Liga, sur RMC, on en a parlé dans l'after. Accord trouvé, d'après nos informations, que l'on confirme, en tout cas on confirme des infos de Sky Sport Italia, entre Cavani et l'Atlético de Madrid pour un départ. Et d'après nos informations, le PSG serait d'accord pour le libérer dès cet hiver. Est-ce que toi, tu as les mêmes infos du côté de l'Espagne ?
Alors, du côté de l'Espagne, déjà, la première info qui était venue d'Italie n'a pas surpris, pour une raison très simple, c'est qu'on sait très bien que Cavani est un joueur Simeone compatible. C'est un joueur qui a toujours intéressé l'entraîneur argentin, et il fut même une époque où c'était Diego Godin qui était chargé de faire le rôle de recruteur quasiment, quoi. Voilà, donc souvent Simeone a aussi parlé directement avec Cavani, même avant de venir au Paris Saint-Germain, on parlait déjà de Cavani à l'Atlético. Donc c'est vraiment un vieux serpent de mer. Oui. Après, l'Atlético a un problème, c'est que avec la DNCG espagnole, il peut pas sortir du rang, et que il faut absolument que l'Atlético vende pour pouvoir acheter. C'est ça aussi.
Il est en fin de contrat à la fin de la saison.
Justement.
Mais le PSG va demander de l'argent quand même.
Ouais, mais
pour 6 mois, c'est ce qu'on disait. On ne sait pas combien ça peut être, mais ça ne peut pas dépasser les 10 millions d'euros, a priori.
Et après, il y a la question du salaire aussi à assurer.
Oui, ça.
Parce que Cavani, en fait. Et à l'Atlético, il y a déjà de gros salaires, en commençant par l'entraîneur qui touche 21 millions net, c'est-à-dire 42 millions bruts. Simeone, c'est quand même l'entraîneur.
Fred, à titre d'info, il touche combien ? Ça touche combien, par exemple, un Diego Costa ?
Ah ben Diego Costa, il est à 6-7, hein, net. Hein.
Bah, c'est moins que Cavani.
Ouais. Hein. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais c'est. Je vous dis, il va falloir que l'Atlético se sépare de quelqu'un.
Ouais. Toi, tu signes 3 ans, tu t'y retrouves aussi.
Il y a un joueur
qui
pourrait.
Il va pas avoir plus que ce qu'il a aujourd'hui.
Ouais. T'as un joueur qui est susceptible de partir côté Atlético ?
Ah bah c'est le Lemar, quoi.
Ouais.
Bah oui, c'est que voilà, lui après le problème de Tony Lemar, c'est qu'il n'a toujours pas réussi à faire son trou. Ça fait quand même un petit moment maintenant, il y a de quoi s'inquiéter un petit peu parce qu'il joue des bouts de match et puis il tient pas, enfin il est quasiment inexistant dans les rencontres, et moi ça me chagrine parce que c'est vraiment un bon joueur, vraiment un bon mec, mais il n'a toujours pas trouvé le rythme de la Ligue espagnole.
Bah, c'est-à-dire que ce week-end, hein, je crois qu'il sort à la 55e, il y a Correa qui rentre et qui marque.
Mais oui, c'est ça le problème. En gros, c'est toujours un petit peu avant quand il est titulaire, qui est pas tout le temps. Très fréquent, il sort au bout d'une heure, quoi. Donc, on sent qu'il baisse physiquement très fort en deuxième période.
Il y a l'euro qui arrive.
Oui, il y a l'euro qui arrive. Donc, est-ce que Thomas Lemar va être tenté de partir ? Et le problème là aussi, c'est que il a un gros salaire. Et puis surtout, Thomas Lemar, il a été acheté 72 millions d'euros par l'Atlético.
Ah oui, c'est vrai.
Donc l'Atlético, c'est ça aussi. L'Atlético peut pas le brader non plus. Donc ça va être de sacrées discussions pour que Cavani vienne à Madrid. Mais sur le principe même, sans rentrer dans les détails, sur le principe, ça n'étonne personne en Espagne qu'il puisse arriver là. Parce que le gros problème de l'Atlético, et j'en termine là-dessus, c'est que Diego Costa a une hernie discale et qu'on ne sait pas quand il va revenir. Peut-être au mois d'avril, au mois de mai. Donc, enfin, là, il y a besoin de quelqu'un. Ouais. Et on a bien vu en Ligue des Champions et en Liga, où l'Atlético a quand même. Là, ça va, ça fait plusieurs matchs où marque 2 buts. Mais la moyenne des buts jusqu'à il y a 3 semaines, c'était 1 but par match.
Morata, ça fait mal à faire.
Bah Morata, il vend dans
ça
mal,
suffit pas. Crois, ouais, bah, oui, Morata, c'est un joueur, c'est un bon petit joueur, mais c'est pas un type pour gagner avec des champions. Donc on se retrouve du côté de l'Atlético avec le Joao Félix. Il est encore jeune, donc il faut un buteur d'expérience. Diego Costa n'étant pas là,
c'est il pas faut un buteur, Joao Félix.
On va passer.
Il se crée des occasions, mais il est souvent fragile parce qu'il est encore jeune dans le dernier geste.
Profite que Cavani, évidemment. Fred, on va revenir sur la 18e journée quand même de Liga hier. On en a parlé un petit peu dans l'after hier avec Daniel notamment. Le Real a concédé le nul hier, donc 0-0 contre Bilbao. Deux matchs de suite sans marquer. C'est vraiment le problème qu'il va falloir régler pour Zidane.
C'est clair parce que sincèrement, c'est une équipe très solide. C'est une équipe qui est belle à voir jouer. C'est une équipe qui maîtrise totalement son sujet, mais dans le dernier geste, là aussi, dans l'efficacité pure offensive, vous vous rendez compte que Benzema a marqué 12 buts en Liga et que le deuxième buteur, vous savez qui c'est ?
Ramos.
Je dirais.
C'est Ramos avec 3 pénaltys.
Ah ouais.
Donc Benzema, il est tout seul.
Ouais.
Voilà.
Moi, j'allais rebondir là-dessus, justement. C'est que dès que Benzema ne marque pas, de toute façon, il n'y a plus personne qui peut marquer dans cette équipe. Plus de ça, il a un Jovic qui est l'ombre de lui-même et qui a presque pas de temps de jeu.
Non, qui est en pleine intégration.
Joueur, il passe là dans aussi, un club en Allemagne mineur, mineur sur la scène européenne au plus grand club du monde. Ouais, mais Francfort, voilà, c'est un club mineur sur la scène européenne au plus grand club du monde, c'est normal.
Tu connais le palmarès de Francfort
à l'heure actuelle. À l'heure actuelle.
Alors hier soir, il trouve le poteau, il rentre en fin de rencontre, belle tête, il trouve le poteau. Mais bon, je vais aujourd'hui, c'est pas une garantie. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de parler en off, comme on dit, jeudi, avec un important joueur du Real Madrid, parce qu'on discutait ensemble du match nul au Camp Nou, où le Real avait été supérieur, mais le Real a manqué d'efficacité, sinon ils auraient gagné le Classico. Mmh. Et ce joueur me disait, mais tu sais, il manque quand même Hazard. Hein. Ouais. Et c'est vrai que pour la clarté, tu vois, Damien, dans la clarté, tu sais, la clarté qu'il faut à un moment dans la dernière passe, dans le bon choix, parce que vous avez un mec comme Hazard, il fait toujours ça bien, il sait ce qu'il faut faire à chaque moment. Quand Benzema est affublé de Rodrigo et de Vinicius, ce sont de jeunes joueurs qui ont encore beaucoup à apprendre. Ouais. Donc l'expérience d'un Hazard pour faire la passe, la bonne passe au bon moment à Benzema, le meilleur buteur, ou pour mettre le but quand il le faut. Par exemple, il y a un super geste de Benzema, la balle rebondit elle est repoussée, mal repoussée par un défenseur sur la ligne. Il est tout seul au point de pénalty, Vinicius, il a qu'à frapper dedans et c'est but, et il contrôle et il perd la balle. Voilà, ces choix-là, Hazard, Fred, moi je voyais ça, Hazard aurait marqué, donc Hazard fait du mal.
Et il n'y aura pas de recrue, hein, c'est ce qu'a dit Zinedine Zidane.
Exactement. Ouais. Et la question qu'on lui a posée hier à Zizou en conférence de presse, c'est... Ah non, mais il a été très clair, c'est qu'il n'y aura pas de recrue.
Il y a un grand mercato cet été déjà.
Oui, puis surtout, franchement, si Hazard est là, et si Bale revient, Benzema, Bale... Hazard.
On demandera tout à l'heure à Julien s'il y a des.
Voilà, enfin, je veux dire,
mais
c'est.
A priori, pas de Pogba au mercato d'hiver.
Non, mais sincèrement, Pogba aujourd'hui, Pogba, malheureusement, n'a pas le niveau de Valverde.
Au moins,
non, puis Real n'a pas dépensé 150 millions.
Le Real. Comme ça, ça bouge pas en hiver, ça bouge à la rigueur en été, mais pas maintenant.
Non, mais surtout que là, le joueur, après, avec Karim Benzema, le joueur le plus important du Real Madrid, c'est Federico Valverde. Donc, il n'y a pas de place pour Pogba.
Un dernier mot quand même sur le Barça, qui compte du coup 2 points d'avance sur le Real Madrid avec sa victoire 4-1 contre Alaves, grâce à un nouveau but de Griezmann. Alors, quand on regarde les stats, on se dit, ça y est, Griezmann, c'est bon, il est intégré. Est-ce que ça suffit pour dire que le temps d'adaptation est passé pour le Français ?
Non, parce qu'il y a aussi un problème. C'est intéressant de comparer par rapport au Real, parce que le Real joue bien, mais n'est pas efficace. Le Barça ne joue pas bien, mais extrêmement efficace. Et on voit, par exemple, les buts marqués contre l'Aves ce week-end, la victoire 4-1. On a un Barça avec un Antoine Griezmann qui, sur les 4 derniers matchs des Catalans, le premier but a été marqué par Antoine Griezmann. Le match qui manque, c'est le match le 0-0 contre le Barça. C'est-à-dire que c'est lui qui ouvre le couvercle. Et Griezmann, moi je trouve qu'on n'a rien à lui reprocher. Il fait un boulot défensif énorme. Quand il a une occasion, il la met avec une tranquillité. Enfin, c'est vous l'avez vu, ce but, cette frappe sur un centre de Suarez. Après, c'est dans le jeu où on sent qu'il n'est pas encore totalement intégré. Mais
je me faisais la réflexion ce week-end, le problème c'est que le jeu du Barça n'est pas intégrateur en ce moment parce que c'est pas un jeu bien huilé. Donc ça n'aide pas non plus. Ouais. Mais sincèrement, Griezmann est, et on va le dire, il est déjà rentable pour le Barça.
Bon, ça sera en tout cas un des enjeux de la deuxième partie de saison pour le Barça.
Ah oui. Si on doit faire vraiment la différence entre le Barça et le Real cette année, c'est vraiment la solidité défensive. On a l'impression que le Real ne va jamais rien encaisser, alors que le Barça, ouais, même contre des petites, ouais, équipes, elle encaisse toujours un but ou deux.
Allez, on s'arrête là, Fred. Merci beaucoup d'être passé dans l'after.
Félix Navidad.
Joyeux Noël, surtout, effectivement.
Joyeux Noël à tous.
À et à très bientôt. On se retrouve bientôt sur les antennes de RMC. Faites bien Noël, la dinde et tout et tout. Dans un instant, Julien Laurence avec l'Angleterre et Paulo Breitner qui attend, qui trépigne d'impatience pour parler de Leipzig, de Mönchengladbach, les leaders de Bundesliga. Tout de suite sur RMC dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.